Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Média.
Et on se retrouve dans un instant pour le 10h midi avec le Club de la Presse Média, les dernières infos médias. On va revenir sur la soirée d'hier soir sur France 2, le Premier ministre qui s'exprimait, qu'en avez-vous pensé? Et puis Gérard Collard avec les livres à 11h moins le quart et la résistance qui s'organise dans le Sud à partir de 11h. Les restaurateurs qui appellent à la résistance, à ne pas fermer les restaurants. On vous attend sur Sud Radio, à tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Média.
Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles Gansman.
Bonjour Madame
Et Thierry. Le vendredi, c'est le Club de la Presse Média et deux nouveaux journalistes sont avec nous ce vendredi. Caroline Bonacossa, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes
à vous.
Journaliste à Stratégie, vous avez une longue carrière dans la presse télé, vous connaissez très bien les médias. Sébastien Barquet, également journaliste à Télé Loisirs, bonjour à vous.
Bonjour,
nouvelle
Valérie.
Formule de Télé Loisirs depuis 15
quelques
jours.
Depuis quelques semaines maintenant.
Ça marche
oui.
bien
On a des résultats en tout cas assez encourageants. Les lecteurs semblent plutôt contents de ce nouveau principe de recommandation dans le magazine
bon.
Plus appuyé.
Bah, très bien. On va parler de Jean Castex, sa première grande émission politique. Comment l'avez-vous trouvé, tant sur la forme que sur le fond? Une émission qui a plutôt bien marché. On va y revenir. On va parler de l'arrivée de Julien Bugier aux 13h. Et puis différentes infos dans les médias. Et puis nos scoops et nos recommandations. Gilles, votre question du jour.
Bah, vous l'avez posée, madame. Oui. La question du jour, c'est est-ce que vous avez trouvé Jean Castex? Est-ce que vous trouvez que Jean Castex a réussi son passage télé? Alors, comme vous l'avez dit, pas simplement dans le fond, mais également dans la forme. Est-ce que vous trouvez que c'est une bête de télévision? Est-ce que vous l'avez trouvé très bon communicant? Eh bien, vous pouvez nous répondre sur Twitter, sur le site de Sud Radio. Vous allez sur nos tweets et vous votez. Alors, pour l'instant, 12% de nos auditeurs trouvent qu'il n'a pas réussi son passage télé et 88% nous disent non. Vous êtes surpris, j'imagine, de ce score?
Non.
Non, bah oui, je sais bien.
Non, je vous ai vu, en revanche, froncer les yeux.
Vous trouvez que qu'il a été bon?
En tout cas, moi, je trouve
Sébastien Barquet, ouais.
Quand il parle, on l'écoute. J'en attendais pas grand-chose, puisqu'on le connaissait pas trop. Donc vraiment, je me suis laissé porter par la découverte hier soir. Je l'ai trouvé plutôt pédagogue. Il a essayé d'être assez proche des Français qui étaient venus... Pour discuter avec lui. Et je trouvais que son message, en tout cas, passait plutôt bien. Après, c'était un peu scolaire, un peu trop propre, sauf à certains moments, je pense qu'on va en parler sur deux, trois instants qui ont pu surprendre. Voilà, un peu vieille école, mais ouais. Sur la forme, je ne juge pas le fond politique, sur la forme, je trouve qu'il était plutôt pas mal.
Alors, on va y revenir.
Il y aura débat,
ça a plutôt pas mal marché. Enfin, ça a plutôt pas mal marché. On avait
mais c'était mauvaise langue, Valérie.
Quoi? Moi, j'avais... Quoi? Pourquoi?
Bah, sur les scores hier, sur nos paris.
Parce que l'émission était un peu en perte de vitesse depuis quelques numéros. 2 271 000 téléspectateurs hier, 10,6% du public. C'est arrivé en quatrième position. Un Grand Hôtel a plutôt très bien marché, très bien terminé les deux derniers épisodes. Donc il est arrivé quand même en quatrième position. 2,2 millions, c'est mieux que l'ancien Premier ministre. Et c'est vrai qu'on ne s'attendait pas, Caroline Bogdan.
Oui, ils étaient à 1,2 million, je crois, à la dernière émission. Oui, donc
absolument,
on peut
il a
dire...
fait mieux qu'Edouard Philippe.
Oui, on peut dire, alors que Edouard Philippe, en termes de popularité, est beaucoup plus haut que Jean Castex. Mmh. Donc on peut dire que c'est un très beau retour, je trouve, de cette émission politique. On le sait tous, la politique, ce n'est pas ce qui drive le grand public. Et je trouve qu'il y a eu une façon de repenser cette émission qui est très intéressante au niveau du décor, de la mise en scène, de la façon aussi de traiter la parole politique et quelque part de la désacraliser, de la désinstitutionnaliser en mettant un peu le politique plus en prise avec le pays et un peu moins dans son côté techno refroidissant. Et de ce point de vue-là, Jean Castex... effectivement, est apparu, je trouve, assez rassurant, assez honnête, assez avec un certain charisme. Et d'ailleurs, dans les items, c'était drôle, on lui a reconnu quand même, malgré tout, à 59% de l'autorité. Ouais. Et donc, c'est pas mal d'arriver à cette alliance-là, à la fois d'être rassurant et en même temps d'incarner réellement un pouvoir politique qui sait ce qu'il veut.
Ouais. Moi, je l'ai trouvé très mauvais, mais on va passer au zapping avant de faire le débat.
Allez-y, faites votre
zapping. Sud Radio, 10h midi, Média, l'instant zapping.
C'est parti pour le zapping. Et ben, on va donc en parler dans notre débat. Et évidemment, c'est l'info média d'hier. C'était la grande première de Jean Castex dans une émission politique. Alors, ici, voulu franc, c'est peut-être une erreur quand on l'a interrogé sur Stop Covid.
Vous téléchargez l'application Stop Covid sur votre téléphone?
Non.
Non.
Quoi?
Non. Non, parce que je ne l'ai pas fait.
Mais pourquoi?
Mais vous poussez les Français à le faire, vous ne l'avez pas fait?
Je pousse les Français à le faire, mais je ne l'ai pas fait parce que, voilà, je l'ai pas fait.
Vous êtes honnête, mais c'est... Voilà.
C'est un peu dire.
Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais.
Non. Malheureusement, l'exercice de mes fonctions fait que je ne prends plus le métro, je le regrette.
Ouais,
je
vous croisez des gens tout le temps. Il y a Bruno Le Maire que vous croisez qui est malade.
Ouais. C'est avec Stop Covid, ça aurait sonné, parce qu'il y a eu quand même pas mal de ministres
qui ont été mis en... Il a fait 1 milliard de déplacements, donc est-ce qu'il s'est fait prendre il a répondu spontanément.
Mais est-ce que c'est pas ce dont on a envie aussi de sortir du mythe du politique parfait, de cette espèce d'image complètement fake qu'on nous vend? Et moi, un Premier ministre qui reconnaît, je devrais et je ne le fais pas, j'ai plus confiance en lui qu'un Premier ministre qui me fait la leçon et sur le mode professoral en s'adressant aux Français comme si les Français étaient inconséquents et que lui était parfait. Moi, je trouve que là, on touche plus du doigt le vrai monde.
En plus c'était vraiment une réaction spontanée. Les gens ne lui reprocheront pas de ne pas avoir téléchargé l'application, mais au contraire apprécieront sa franchise dans sa réponse.
J'hallucine en vous entendant. On peut pas avoir dépensé des millions, c'est-à-dire l'argent des Français. On peut pas inciter les Français.
Quand même, bien sûr. Disais, moi je porte pas le masque. C'est un peu ça quand même.
C'est pas parce que vous prenez pas le métro ou pas. C'est-à-dire qu'il représente la France, c'est le premier des Français, et donc on ne peut pas dire en plus à la télévision sur un média comme ça, qu'on ne télécharge pas, ce qui incite évidemment à des mesures de protection. On ne peut pas dire « je fais tout pour vous protéger et je ne télécharge pas Stop Covid », même si j'apprécie, comme vous dites, sa sincérité et qu'on n'a pas l'habitude à la télévision de voir des gens sincères.
Mais c'est une sincérité ou c'est une gaffe?
Mais c'était sous forme de mea culpa. Moi, je l'ai compris comme ça. Il a dit « je vais être franc, je ne le fais pas ». Et c'est vrai que...
Mais il n'a pas dit « je devrais le faire », il a dit « je ne prends pas le métro comme excuse ». Donc je suis un petit peu d'accord avec Gilles,
c'est une gaffe. Il n'en était pas fier.
Mais non, je pense qu'il a spontanément dit « je ne l'ai pas téléchargé » et il s'est rendu compte qu'il disait une grosse connerie quand même. Enfin, par rapport au... Moi, je pense qu'on peut le lui reprocher.
Mais c'était un moment rare de franchise à la télévision et on n'est pas habitué à la franchise à la télévision.
Et chez les politiques.
Jean Castex s'est détendu. Je ne sais pas si vous avez vu à la fin de l'émission, il a taclé Pierre Humic. Alors Pierre Humic, c'est ce fameux maire de Bordeaux. Vous savez qu'il ne veut pas d'un sapin parce que c'est un arbre mort pour Noël. Et bien du coup, Jean Castex l'a taclé un petit peu. C'était rigolo.
Je me suis dit à Bordeaux, maintenant, peut-être que vous allez interdire les matchs de foot ou de rugby pour pas qu'on abîme la pelouse.
Habitué à mieux que ce type de caricature, monsieur le Premier ministre.
Elle a dit que c'était pour plaisanter.
C'était pour plaisanter.
La féerie de loi cette année à Bordeaux.
Ça souffre une pelouse. Donc marcher avec tous les crampons. Dans l'émission également, alors, c'était sur TPMP, sur C8, qui est surtout une émission pour jeunes. Eh bien, Frédéric Becbédé a pris la défense de Nicolas Bedos. Vous savez que Nicolas Bedos a écrit un texte encourageant les gens à oublier tout geste barrière, sortir, vivre, quitte à mourir. Frédéric Becbédé a pris sa défense.
Nicolas Bedos, il a écrit un texte pamphlétaire.
Ouais.
Donc c'est normal, c'est un style qu'il a, qui est excessif, mais on est dans une situation où il faut un peu s'énerver parce qu'il n'y a pas grand monde dans le camp de la liberté. Hein, on est quasiment dans une guerre civile entre d'un côté la santé et de l'autre la liberté. Mmh. Et il y a peu de voix qui s'élèvent dans le camp de la liberté. Tout le monde a l'air d'accord pour dire qu'il faut absolument tout interdire pour sauver des vies. Alors d'accord, mais pensons aussi à tout ce qu'on est en train de détruire.
Alors hier ce matin, il a réagi, Nicolas Bedos, à toute la polémique. Hier, même le ministre de la Santé lui a répondu. Il dit « Je me permets de rappeler à certains éminents journalistes que je ne suis pas ministre de la Santé, j'en serais bien emmerdé. Je ne suis qu'un auteur qu'on appelait jadis avec un soupçon de mépris un pamphlétaire. » Et accessoirement, je vous rappelle que nous sommes encore libres de penser différemment, de débattre, de nous indigner et même de nous tromper. Voilà. Donc c'est ce qu'il a répondu.
Oui, il réincarne quelque part aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est un saltimbanque, c'est un bouffon du roi. Il faut parfois qu'on sorte un peu du politiquement correct, de la bien-pensance. Et je pense que de ce point de vue-là, on est tous en prise avec la société et on sait très bien tous, on entend ce discours-là autour de nous. Combien de gens nous disent qu'est-ce qu'on fait? On se prive de toutes les libertés.
Mais la société, elle n'est faite que de règles. Moi, je ne peux pas pas rouler à 200 km/h, j'aimerais rouler cheveux au vent.
Mais aussi, en tous les cas, bien sûr, et on est tous pris entre nos envies et puis les restrictions qu'on nous impose, mais je trouve ça aussi bien que qu'un saltimbanque ou qu'un bouffon du roi, une fois de plus, incarne cette parole-là de liberté, et puis après tout, ça n'engage que la responsabilité, effectivement, de Nicolas Bedos, et il a le droit de penser qu'il faut aussi penser à nos vies. Regardez, par exemple, c'était le cas aussi sur le plateau de Castex hier, quand il y avait une jeune lycéenne qui disait « Mais vous nous volez notre jeunesse ». Et au fond, Nicolas Bedos, il est dans ce même discours-là, c'est-à-dire de dire pendant ce temps-là, que se passe-t-il de nos vies ?
En 39-45, on a pris la jeunesse de nos garçons aussi, hein. Pour le poème.
Oui, en même temps, on l'a arrêté. Après, on a fait une trêve et.
Oui. Mais il y a eu également des gens qui ont décidé de ne pas aller à la guerre.
En tout cas, ça a beaucoup, beaucoup fait réagir.
Mais il savait que ça ferait réagir aussi. Je pense qu'il en a joué aussi.
Absolument.
Pour le président des maîtres restaurateurs sur BFM... sur BFM, pour lui, le fait de fermer tous les établissements, eh bien, on est non seulement en train de tuer le métier, mais surtout, on laisse un boulevard à la malbouffe.
On va sacrifier l'art de vivre des Français et nos restaurants. Il y a des grands chefs qui disent ils vont fermer tout ça. Oui, ils vont fermer, ils vont changer de main. Parce que vous avez, entre guillemets, les charognards qui sont là, excusez-moi du terme, mais c'est celui-là. On va racheter nos affaires, ça va être des fast-food, ça va être des restaurants de malbouffe. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est pour les années à venir. D'un côté, des gens qu'on humilie, nous, les restaurateurs, et d'autre part, on fait une autoroute à la malbouffe.
Et pour finir ce dernier son, Valérie, vous m'avez envoyé un SMS, vous m'avez dit « Regarde, c'est fabuleux, c'est fantastique, j'adore !» C'était Gad Elmaleh qui reprenait du Nougaro, alors tout de suite j'ai zappé, et donc merci Gad Elmaleh.
La vie, quelle histoire, c'est pas très marrant.
Évidemment, c'était du second degré.
Je vous offrirai l'album pour Noël,
non,
madame.
Non, ça va.
Vous refusez mes cadeaux, c'est pas bien.
Un peu curieux, je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est, voilà. Jean Castex, donc hier soir, la forme, le fond, les deux sont liés, mais on va y revenir évidemment aussi à 11h. Mais on va en parler avec vous dans un instant. Un auditeur, Mickaël, nous dit « Cette émission politique, c'était le cliché des accents du Sud avec Castex, Urmic, Ménard, un accent pour se faire passer proche du peuple et de la province. » Voilà, vous avez 2 minutes pour réfléchir, on va en débattre.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, Média.
Avec vous sur Sud Radio, avec Caroline Bonacossa, journaliste média à Stratégie, Sébastien Barquet, journaliste télé à Télé Loisirs. Voilà, et on parle donc de la prestation hier de Jean Castex. Hier, première grande émission politique. Qu'en avez-vous pensé sur la forme et sur le fond? Est-ce qu'il a été un bon communicant? Je ne sais pas qui veut commencer.
Ben moi, sur la forme, j'ai vachement apprécié le nouveau plateau en fait, que j'ai trouvé punchy avec ce orange. On est sorti des couleurs un peu républicaines, bleu, blanc, rouge. Là, c'était assez vif. J'ai bien aimé la mise en scène. J'ai bien aimé la réalisation, le fait que tous ces écrans splittés, le fait qu'ils commencent par quelques questions un peu incisives. Je trouve qu'il y a vraiment eu une envie de mettre du rythme et de donc désacraliser un peu cette parole politique. Parce que le problème, quand vous recevez un Premier ministre, c'est qu'on a tendance, quand on est journaliste, à s'asseoir dans un fauteuil, à être un peu tétanisé et à se dire, faut pas que je sois mauvais. Et là, on sentait qu'il y avait eu une réflexion en se disant, non, on a un Premier ministre, il faut qu'on le confronte au problème et la situation d'aujourd'hui. Je trouve que le questionnement a été bon et le résultat, malgré tout, intéressant, parce qu'on a vraiment l'impression, en tous les cas, d'avoir pu découvrir Jean Castex en situation, dans différentes situations, effectivement, quitte à faire parfois une gaffe, à pas trop savoir, là, par exemple, les piscines, je sais pas, et on laisse les piscines ouvertes, si elles sont ouvertes, et puis on attend une heure pour qu'Olivier Véran se dise, j'ai adoré, mais oui, le Premier ministre avait raison, les piscines ouvertes enfermé. Mais donc, on a senti comme ça un peu une émission finalement très vivante avec des interactions que j'ai trouvées intéressantes et donc un homme qu'on a découvert. Alors, effectivement, il est assez aux antipodes physiquement des.
C'est lui de Funès. Hein.
Bah, c'est ça. Alors, ce qui est d'autant plus drôle, c'est qu'il.
Il n'était pas moche, lui de Funès. Non, mais il est rempli de tics, il est rempli de.
J'en ai pas vu tant que ça, moi, de Tzik hier soir. Je l'ai trouvé un petit peu tendu au début de l'émission.
Ouais. Alors, il est arrivé sans lunettes.
Sans lunettes. Et puis, quand il les a remis, on n'a pas trop compris pourquoi. Il aurait pu les garder dès le départ. Je pense que ça dérangeait personne. Il est resté. En fait, je trouve qu'il est resté le même. Pratiquement pendant toute l'émission, il s'est rarement laissé déstabiliser, sauf à deux reprises par deux intervenants, notamment la maman d'Adrien Pérez qui avait été assassinée il y a deux ans. Où, là, il a laissé parler l'homme, il a fait preuve d'humanisme, on a découvert ce côté-là. Et il s'était également laissé un peu déstabilisé par la représentante des seniors, Armelle, qui a été extraordinaire. Pleine de charisme, quand elle l'a interpellée, elle ne s'est pas laissée démonter. Là aussi, il a un peu changé sa posture physique quand il lui répondait un peu plus par-dessous, à essayer d'être poli par rapport à elle. Mais voilà, moi j'ai trouvé plutôt pédagogue, c'est ce qu'on disait dans l'exercice. Pas toujours très concret. Alors oui, il a donné des informations, les 8% de plus de budget pour la justice. Je trouve qu'il est passé un peu rapidement, moi, sur les résultats des tests Covid, où on dénonçait un petit peu justement la lenteur pour pouvoir les recevoir. Et ça fait partie aussi de la stratégie de notre pays contre le virus. Ça, c'était un petit peu lent, pas très clair non plus, effectivement, sur les piscines, puisqu'on est revenu dessus. Il a demandé vérification en plein direct. Voilà, après, sur la forme de l'émission, moi, je trouve qu'elle porte très bien son titre, Vous avez la parole. C'était très intéressant de le confronter justement à la parole des Français. Je suis un peu partagé, moi, sur les différents témoins qui étaient présents. Ça me gêne un peu, cette émotion, dans une émission politique. J'en menais pas large, moi, quand la maman d'Adrien Pérez
Certains ont reproché ce côté. Il y a deux réactions de confrères. Michel Denisot, hier, qui a dit « La toile cirée en fond d'écran derrière les Salamé, c'est une faute de goût ». C'est de l'humour, il a l'habitude de ça. Et ce matin, c'est Guillaume Durand qui critiquait justement la forme de l'émission où il y avait l'infirmière qui se plaint, la mamie, enfin la retraitée, enfin elle n'est pas retraitée d'ailleurs, Armelle Le Bigot, mais la grand-mère qui se plaint. Enfin, et on a l'impression qu'il était mis en accusation devant tous ces cas particuliers et responsable de tout ça.
Moi, je ne trouve pas qu'il ait été mis en accusation. Il a été, pour moi, confronté. C'est-à-dire qu'il faut sortir, vous savez bien que la problématique, c'est qu'on voit les politiques comme des énarques enfermés dans leurs belles institutions du Conseil d'État, des ministères, et totalement coupés de la réalité et du pays. Et là, il a été confronté à des citoyens, des gens qui peuvent avoir une colère, qui peuvent avoir un quotidien difficile. Et moi, j'attends des politiques, mais qui nous apportent des réponses à tous. Donc, de ce point de vue-là, moi, je trouve que c'était intéressant de le confronter. Et dans l'exercice, moi, je trouve qu'il s'en sort bien. Et on sent bien qu'on a un Premier ministre qui n'est pas flottant, qui n'est pas enfermé dans ses institutions. On voit bien que c'est un homme, entre guillemets, des territoires. C'est pour ça qu'il a été casté par Emmanuel Macron.
Et on l'a pas... On caste un Premier ministre.
Bien sûr. Et quel beau duo font-ils entre l'un et l'autre. Quand vous avez Macron qui a une communication parfaite, qui a une tête de modèle de la classe, presque de top modèle, à côté d'un Jean Castex qui effectivement relève plus du Louis de Funès.
Plus rustique.
Oui, exactement. Plus rustique, plus aussi désuet, parce qu'il a un petit côté Troisième République, Jean Castex, avec cet accent. Enfin, voilà. Ils font un duo étonnant. Et toujours est-il que, moi, je trouve qu'il a été bien... il s'est pas laissé déborder, et on sentait quand même un homme qui est en prise avec la réalité du pays, qui n'est pas enfermé dans des sphères de pouvoir qui le coupent et le déconnectent.
Alors, quelques réactions, pardon, mais franchement, je vois pas l'avancée du débat. Si le Premier ministre vient dans une émission assez casse-pipe, il faut bien l'avouer pour dire si oui ou non Roland-Garros aura lieu. C'est vrai qu'il y avait des choses un petit peu étonnantes, quoi. C'est ce que c'est à lui, il n'est pas patron de Roland-Garros, il n'est pas... Donc c'est vrai qu'on lui a posé des questions qui n'étaient peut-être pas forcément...
Là, c'était une question Twitter.
De son ressort. Bah oui, mais on ne la pose pas. Je pose toutes les questions. Hein. Jackie nous dit, face à l'hypocrisie professionnelle de Léa Salamé, Jean Castex est tombé dans quelques petits pièges, mais je pense qu'il le savait, et a laissé cette jouissance journalistique faire son cinéma. Cela n'a pas empêché un certain creux dans cette émission. Voilà ce que pensent quelques-unes de nos auditeurs qui sont sévères.
Moi, j'ai trouvé que c'était de la très vieille télé, mais vraiment de la très vieille télé. J'ai trouvé en particulier les reportages qui étaient pas du tout modernes. On a eu deux jeunes filles, c'était plus de la radio. Ils étaient illustrés, on les voyait marcher dans un escalier, déambuler. Enfin, c'était pas des vrais sujets. On n'a pas été sur le terrain, on n'a pas été voir les restaurants marseillais, on n'a pas été voir les policiers, on n'a pas été voir tous ces gens-là.
Il y avait une femme de policier.
Oui, mais on les a pas vus au quotidien. Je parle des reportages qui étaient des sujets qui étaient très vieillots. J'ai trouvé, moi, au contraire de vous, je pense que le décor a rien de moderne. C'est toujours les mêmes décors à France Télévisions. On pourrait faire toutes les émissions dans ce même décor avec les écrans. On change les couleurs, on met trois photos. Je trouve que les face-à-face ne fonctionnent pas. Moi, j'ai trouvé Léa Salamé plutôt conciliante et pas du tout journalistique. J'ai trouvé par contre Soto.
Même, vous plaisantez ou quoi?
Non.
Pas du tout journalistique. Enfin, elle a posé.
Non, pas journalistique, mais je l'ai pas trouvé très agressif.
On lui a reproché d'être très maîtresse d'école. Enfin, il y a eu.
Ça c'est autre chose.
Oui, non, mais elle a posé. Je suis pas d'accord avec vous. Je trouve qu'elle a posé les questions qu'il fallait avec le ton qu'il fallait.
Elle s'est fait aussi le porte-parole des téléspectateurs en posant des questions notamment sur l'horaire à 22h. Les restaurants ferment à 22h. Pourquoi? Parce que le virus est plus présent à 22h.
Et puis la question stop Covid. L'appli, c'est elle qui l'a posée aussi. Après, là où je vous rejoins, c'est que j'ai trouvé Thomas Soto particulièrement bon. Excellent, disons. Et là où Léa Salamé a bien fait son job, mais je trouve que lui a pris un peu le dessus.
Bon, on va en reparler tout à l'heure. On a d'autres sujets à évoquer. Bah, peut-être vous nous donnerez la réponse après du vote. Oui. Mais donc, Julien Bugier, on a appris cette semaine qu'il allait arriver aux 13h de France 2. Il va remplacer Marie-Sophie Lacaro, qui, elle, est partie sur TF1, remplacer Jean-Pierre Pernaut, enfin, qui va le remplacer à partir de janvier. C'était une décision compliquée pour France Télévisions. Alors, Caroline Bonacossa...
J'adore cet épisode-là parce que ça faisait 9 ans que Julien Bugier était Joker. Et c'est un peu la revanche de l'éternel Joker. Ouais. Parce que le problème...
Les
quand
Jokers,
on
est... ils ne viennent jamais titulaires.
Voilà. Alors, j'ai fait des comptes, j'adore. Donc, Julien Arnaud, ça fait 14 ans qu'il est Joker sur TF1. Audrey Crespo-Mara, 5 ans. Laurence Ferrari l'a été pendant 4 ans. Anne-Sophie Lapierre, seulement 2 ans. Et Jacques Legros, tenez-vous bien, 22 ans qu'il est Joker de Pernaut. Et en fait, le problème du Joker, c'est plus vous vous installez dans le rôle de Joker, et moins vous avez de chance d'un jour d'avoir le poste. Et notamment, Julien Bugier, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 4 ans, au moment de la succession de David Pujadas, qui est parti sur LCI, il avait été extrêmement déçu que ce soit Anne-Sophie Lapix qui soit choisie, et pas lui. Et là, donc, je trouve que c'est une jolie revanche pour lui, qui en avait un peu marre. Et alors, ce que j'adore aussi, on l'a vu dans son interview au Parisien, c'est qu'il a décidé d'être un peu plus offensif, parce qu'on lui dit toujours qu'il a un air propre, de genre idéal et tout ça. Ouais. Alors, il y est allé de formule un peu choc, en expliquant que si on demandait à sa belle-mère ce qu'elle en pensait, elle dit que c'est plutôt un emmerdeur qu'un genre idéal. Et alors là, je trouve ça assez savoureux.
Ouais, et vous pensez qu'il va, alors déjà sur le choix, c'est...
Moi, je trouve que c'est un bon choix. Et puis, je pense que s'il a aussi ce poste aujourd'hui, c'est aussi parce qu'il a fait savoir ses ambitions par le passé et comme quoi il faut les faire connaître. Je trouve que c'est un bon choix. Il a déjà fait ses preuves. On n'a pas besoin de parler de son talent, en tout cas, je pense, pour la présentation du 13h. Et je pense qu'il a raison aujourd'hui de vouloir moderniser le 13h. C'est le moment de le faire. Je le regarde régulièrement, moi, le 13h de France 2. Je n'ai pas forcément l'impression qu'il y ait besoin de le dépoussiérer. Mais là, comme sur TF1, les téléspectateurs vont être un peu déboussolés par l'arrivée de Marie-Sophie Lacaro. Ils ont tellement eu l'habitude de Jean-Pierre Pernaut. Ils vont peut-être se dire, bah tiens, qu'est-ce qui se passe sur la chaîne d'en face? On va aller voir ce qui se passe à France 2. Et là, justement, si lui peut impulser de nouvelles idées, de nouvelles choses et marquer son empreinte sur le 13h, bah, c'est le moment de le faire.
Vous pensez qu'il va gagner face à...
Je pense qu'il peut gagner, en tout cas, des téléspectateurs.
Vous n'êtes pas d'accord?
Non, mais là, c'est une bataille entre le pot de fer et le pot de terre, le pauvre. Mmh. Vous voyez la suprématie du JT de TF1. Enfin, ça écrase tout. Donc après, il peut essayer de grignoter. Et effectivement, lui a dit dans cette interview dans Le Parisien qu'il voulait plus de débats et de découvertes. Et alors donc, ça m'a amusé aussi ce petit tacle de découverte, c'est-à-dire sous-entendu pour rompre avec les éternelles redécouvertes éculées du terroir de TF1, où on sait que par exemple Quotidien adore mettre en boîte un peu Jean-Pierre Pernaut, qui d'année en année reprend les mêmes lancements, les mêmes fêtes rurales ou sur les territoires. Donc effectivement, il va être plus offensif. Il a intérêt effectivement à essayer d'apporter quelques nouveautés, mais pour lui, la bataille va être rude, c'est sûr. D'autant que Marie-Sophie Lacaro est aussi une excellente journaliste, ancienne Joker d'ailleurs, avec un très grand savoir-faire et avec la puissance
de TF1.
Et puis la puissance de ce réseau de correspondants qui est assez exceptionnel.
Mais qu'a aussi France Télévisions.
Oui.
Ouais. On a, alors, on a un auditeur, Zapper TV, qui nous dit « Bugy a plus le ton du 20h que du 13h. Il aurait dû reprendre le 20h. » Et puis, ça commence bien. Il n'a jamais dû voir le 13h, car dans une interview, il dit vouloir mettre en place des reportages découvertes. C'est déjà le cas chaque jour en France et à l'étranger et dans les feuilletons. Idem pour les reportages « La France qui bouge » qu'il veut mettre en place. Donc, je ne sais pas si...
On verra
effectivement comment il va modifier. Peut-être qu'il veut le préparer, le présenter différemment. Gilles ?
Oui. Non, moi, je n'ai pas vraiment d'avis. Je trouve que Julien Bugy est quelqu'un qui a une image moderne. Je pense que ça va être compliqué face à TF1 qui a un rouleau compresseur, mais on peut avoir, des surprises.
Ce sera à voir.
Et puis la question, c'est de savoir s'il continuera ou pas la radio. C'est aussi une question média.
Il a dit qu'il continuerait. Hein. Il a dit qu'il continuerait pendant un an. Je pense qu'il a un contrat de toute façon.
Bien donc, sûr, avec Europe. Il est sur Europe 1 à 18h.
Très compliqué pour lui de ne pas continuer. Je voulais aussi, demain, nouveau programme, c'est la rentrée pour France 2, avec le retour de Laurent Ruquier. On est en direct. Et puis, surprise, qui marque son grand retour.
Oui,
il y avait
eu
une émission anniversaire. Laurent Ruquier qui a dévoilé quelques noms, mais qui ne sont pas très excitants, je trouve, dans ceux qu'il a dévoilés.
Alors, effectivement, il a parlé pour l'instant de Bernard Campan et d'Isabelle Carré, qui viendraient sur son plateau. Mais alors, moi, ce que je note surtout, c'est que la vraie rupture, à mon sens, en coulisses, c'est surtout que Catherine Barma ne va plus assurer la production des émissions de deuxième partie de soirée sur France 2, alors qu'elle le faisait, tenez-vous bien, depuis autant de temps que Jacques Legros à la présentation, 22 ans, puisqu'elle avait fait d'abord Ardisson, et ensuite Ruquier. Donc là, c'est le vrai gros changement, à mon sens, c'est plus de Catherine Barma, qui a quand même, on le sait, un talent pour créer le buzz, trouver les
Philippe
bons invités.
Qui est le producteur, bon là, on sait un peu de la cuisine, mais c'est un très bon producteur, vous verrez. Moi, je pense qu'on va être surpris et je pense que il avait besoin aussi de se libérer et d'avoir quelque chose qui se renouvelle. Alors on va voir de quelle façon ça fonctionne. Il n'y a pas eu il a pris une grosse baffe sur TF1 et après toutes les émissions qu'il a faites, Ruquier, ont presque toujours fonctionné.
Bien sûr.
Donc il a été toujours à la tête de succès, sauf la première fois sur TF1.
Et là, la nécessité, je pense qu'il avait, il s'en est bien rendu compte, c'est que son émission, il l'enregistrait toujours le jeudi soir, à l'heure à laquelle on est des réseaux sociaux et de la réactivité qu'il y a. Son émission était déjà trop vieille, après deux jours enregistrée le jeudi, diffusée le samedi. Là, il va être effectivement en direct, et je pense que ça va donner une adrénaline, une puissance et une réactivité qui vont être très intéressantes.
On va voir. Moi, je pense qu'il aurait mieux fait de ne pas donner les noms, les trois noms qu'il a donnés, parce que ça, c'est pas très... Le chanteur Pierre-Paul Jacques, je ne sais pas très bien à qui ça parle, mais
il a dit qu'il se réservait de ne pas dévoiler le reste du casting.
Ouais. Alors.
Moi, je pense qu'on se repose peut-être un peu trop sur le fait que ce sera en direct. Ça me fait un peu peur parce qu'effectivement, tout peut se passer. La programmation de demain, effectivement, elle n'est pas hyper aguicheuse. On verra. Après, il avait annoncé qu'il pourrait y avoir beaucoup plus d'invités, jusqu'à une trentaine. Il y a sans doute des surprises.
Hier, on recevrait Alexandra Redamiel qui a démenti.
La directrice des divertissements.
On verra et on jugera sur pièce, comme on dit.
Les scoops,
les infos que vous nous apportez. Caroline, peut-être commencer avec vous, avec les prix stratégie de cette semaine. Qu'est-ce que c'est que les prix stratégie?
Alors, en fait, pendant toute l'année, à Stratégie, on remet des prix concernant les médias, la publicité. Et là, du fait du confinement et de tout cet épisode de Covid, on a décidé de reporter tous ces événements-là à trois jours de festival qui ont lieu lundi, mardi et mercredi de cette semaine. Et on a remis tous les prix qu'on remet dans les six mois qui se sont écoulés habituellement. Et alors, je vous en ai sélectionné trois. On a remis le prix de l'éditeur à France Télévisions parce que on a trouvé que en cette période de Covid, notamment, France Télévisions avait fait preuve d'une adaptabilité, d'une agilité, d'une réactivité, d'un sens du service public. Et je pense notamment à tout ce qui a été mis en place pour les enfants sur France 4. tout l'accompagnement par rapport pédagogique, par rapport à l'absence au cours distanciel. Et puis, on a remis deux prix à deux pubs que je vous conseille de regarder parce qu'elles sont vraiment extrêmement réussies. Et toutes les deux s'appuient sur des chansons très fortes. Il y a We Are The Champions de Queen. Et en fait, c'est pour une pub pour, dans la catégorie Grande Cause. Et c'est pour la Fondation 50 millions d'amis. Figurez-vous qu'en France, on a le triste record du pays où il y a le plus d'abandon d'animaux domestiques d'Europe. Et donc, je vous conseille de regarder donc, cette pub qui a été faite par Altman et Pacro, qui a donc eu ce prix.
Ce sont les agences pour nos éditeurs.
Exactement. Et l'autre agence, qui est une très grosse agence de pub qui s'appelle BETC, a fait une pub Lacoste qui s'appelle Comment je me suis... pour Lacoste, qui s'appelle Comment je me suis disputée. Et c'est sur l'éternel air de l'hymne à l'amour de Piaf.
Ils n'ont pas mis du rap. Ils sont habitués au rap, Lacoste.
Ouais, mais juste justement, ils ont fait un côté vintage. Ouais. Et alors, regardez aussi cette pub parce qu'elle est vraiment très belle et très, très émouvante. Voilà.
Bon. Et en musique, on reste
oui,
avec
l'Eurovision.
Oui, on reste
en musique. Ben, on va aller voir ces pubs. Et l'Eurovision ?
L'Eurovision, oui. Normalement, l'édition 2021 devrait avoir lieu. Bien sûr que si, ça aura lieu. La production néerlandaise a proposé quatre types de scénarios pour assurer la bonne tenue du show. Il y a deux scénarios très optimistes. Un dans lequel on a un vaccin d'ici là, on a des tests fiables, allez, on y va. Tout le monde sera présent
c'est
sur place.
C'est optimiste, effectivement, ça.
Je ne sais pas si on aura une razzia de 12 points pour la France, ça, c'est pas dans le contrat. Et un deuxième scénario, un tout petit peu moins optimiste, où on a encore une distanciation qui sera imposée, et là, du coup, il y aurait moins de monde sur site, mais quand même, le show aurait lieu devant un public. Deux scénarios plutôt pessimistes, un dans lequel certains pays ne pourraient pas faire le déplacement, donc du coup, il serait prévu que l'émission propose à la fois des lives depuis les Pays-Bas, c'est à Rotterdam que ce sera organisé, et depuis aussi les pays qui ne pourraient depuis les studios qui ne pourraient en tout cas qui ne pourraient pas se déplacer, et le scénario catastrophe dans lequel les Pays-Bas seraient une nouvelle fois confinés, et à ce moment-là effectivement tous les pays feraient un live depuis leur propre studio. Voilà,
ça...
attention, c'est déjà ce qui va être testé pour l'Eurovision Junior. Pardon,
ça doit être quand l'Eurovision, c'est quoi
c'est,
la date
c'est mi-mai, mi-mai l'année prochaine.
Pour l'Eurovision Junior, il y a une petite française
ou français, on ne connaît pas encore le nom du représentant. Ce sera le 29 novembre à 17h sur France 2. Et donc là, effectivement, va être testé le principe du « on n'envoie pas les artistes en Pologne », puisque c'est là que ça devait être organisé, mais chacun chantera depuis son pays.
Très bien. Conseil télé pour rapidement
Laetitia. Laetitia, parce que vraiment... c'est la fiction. Ouais. Il y a eu la première partie, vous pouvez la regarder en replay sur le site de France Télévisions, les trois premiers épisodes. Vous avez les trois suivants, je crois que c'est lundi prochain. C'est signé par Jean-Xavier Delestrade qui est quand même prix Albert Londres pour ses documentaires notamment La justice des hommes et Le coupable idéal.
Il y aura un débat. Vous pouvez regarder.
C'est vraiment
présenté
excellent,
par
Julien
Bugier, justement. Ouais. Un auditeur nous dit j'aime beaucoup ces émissions le samedi. C'est vrai que ces émissions conso sont très bien faites. Donc Laetitia pour vous, Sébastien, vous ce sera surprise surprise.
Oui, je vais me laisser surprendre par surprise surprise parce qu'on en attend beaucoup. L'émission Célébrer les 30 ans avait bien marché, 3,26 millions de téléspectateurs. Là, moi, j'ai vu un extrait de l'émission d'hier avec Augustine Galliano qui était piégée par Anne Romanoff. L'extrait, d'ailleurs, sera sur téléloisirs.fr aujourd'hui. Et je trouve ça plutôt réussi. J'en attends beaucoup. Les animateurs, pas trop, mais vraiment les sketchs, j'ai vraiment envie de voir ce que ça va donner.
Moi, je vous conseille Zone Interdite. À 15 ans, ma fille se prostitue, c'est dimanche soir. Hier, on a reçu la réalisatrice et l'une de ces jeunes femmes qui a commencé à se prostituer à l'âge de 13 ans. Très fort et absolument glaçant. Absolument. Allez, on se retrouve dans un instant avec Gérard Collard. On va parler livres. À tout de suite.